nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Nous passons une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, cacao, vin, soja et fruits rouges, serait-ce la recette miracle pour rester en bonne santé le plus longtemps possible? Oui, vous répondront les industriels agroalimentaires et industriels de la cosmétique. Peut-être, vous dira l'Académie de pharmacie, car rien n'est certain. À l'origine de ce désaccord entre l'Académie de pharmacie et les industriels, les flavonoïdes, des antioxydants considérés comme source de jouvence. Que savons-nous exactement à ce jour de ces flavonoïdes? En quelle quantité en ingérer pour en ressentir des effets bénéfiques? Quelles sont les pathologies pour lesquelles les flavonoïdes seraient utiles en complément de traitement? Mais également, existe-t-il des effets néfastes et des interactions avec d'autres produits? C'est ce que nous allons voir avec notre invité Jean-Claude Stockley. Jean-Claude Stockley, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation au studio de Canal Académie. Pour vous présenter, vous êtes membre de l'Académie nationale de pharmacie, professeur honoraire de pharmacologie à la faculté de pharmacie de Strasbourg. Vous avez dirigé un laboratoire de pharmacologie et de physiopathologie cellulaire où vous vous êtes intéressé notamment aux vaisseaux sanguins. Est-ce que pour vous, Jean-Claude Stockley, les flavonoïdes sont de la DHEA végétale?
Oh, je crois que ce serait présomptueux de le présenter ainsi. Je comprends la question. Elle se réfère à une hypothèse. Les flavonoïdes, qui sont très nombreux, il y en a plus de 300 identifiés dans l'alimentation, sont les principaux polyphénols présents dans l'alimentation avec des propriétés antioxydantes qui se tiennent justement à la présence de multiples fonctions phénols. Ils sont capables de capter les radicaux libres, particulièrement les espèces activées de l'oxygène, dont on sait qu'au fur et à mesure du vieillissement, ils tendent à augmenter dans les cellules et à troubler l'équilibre entre les phénomènes réducteurs et oxydants, et ainsi à provoquer des lésions cellulaires qui sont en somme liées au vieillissement. Et l'hypothèse, c'est que par leurs propriétés, disons pour simplifier, antioxydantes, les flavonoïdes limiteraient ces lésions et préviendraient donc un certain nombre de pathologies associées au vieillissement. Mais il s'agit d'hypothèses parce qu'il y a deux points importants à souligner. Le premier, c'est qu'il n'y a pas d'évidence que les flavonoïdes aient un effet antioxydant in vivo, pas d'évidence convaincante, même s'il y a des rapports un peu opposés sur la question suivant les conditions d'observation. En tout cas, pas d'évidence définitive, d'une part. Et deuxièmement, les études qui montrent un effet antioxydant sont des études qui ont été faites au niveau cellulaire et, bien sûr, dans des conditions qui sont très éloignées des conditions de l'organisme entier. Et pour l'instant, le lien entre les deux n'est pas encore fait.
Alors, on a bien compris, l'Académie de pharmacie, en l'occurrence vous, vous parlez au conditionnel. Les industriels, eux, parle plutôt à l'affirmative. C'est ce qui est à l'origine de cette controverse, de ce débat?
Oui, l'Académie de pharmacie a souhaité mettre en garde contre un enthousiasme excessif ou prématuré en tout cas, qui conduit à proposer l'utilisation dès maintenant de gélules ou de diverses préparations enrichies en flavonoïdes sans qu'on sache exactement ce qu'elles font et sans au fond réelle justification scientifique des emplois pour lesquels ils sont préconisés.
Pour l'instant, il semble qu'il y ait quand même des résultats positifs en matière cardiovasculaire. Il y aurait un impact positif des flavonoïdes sur l'aspect cardiaque.
Il y a plusieurs niveaux d'évidence. La question se pose à partir d'enquêtes épidémiologiques. Ces enquêtes, même lorsqu'elles sont prospectives, n'établissent pas un lien de cause à effet. Elle présente en outre des difficultés d'interprétation considérables. Par exemple, si on s'aperçoit que dans une population donnée, les personnes qui boivent du vin rouge en quantité modérée ont une moindre incidence, moindre prévalence d'incidents coronariens ou d'accidents coronariens, cela peut être dû bien sûr au fait de boire du thé ou du vin, mais cela peut être dû aussi aux habitudes sociales qui y sont associées. Et donc, pour avoir une preuve définitive, il faut faire des essais interventionnels, cela, non plus seulement d'observation, mais interventionnels, randomisés, c'est-à-dire à double insu. et où l'intervention consiste à imposer un régime particulier strictement défini. Et ces essais sont lourds à mettre en œuvre et ils ne sont tolérables pour les sujets qui s'y soumettent que dans des laps de temps relativement courts. Or, les pathologies cardiovasculaires, ce sont des pathologies qui évoluent à très long terme. Il faudrait des essais pendant des années sur des dizaines, peut-être des centaines de milliers de sujets pour avoir une réponse définitive.
Donc là, en l'occurrence, il y a une corrélation, mais il n'y a pas d'affirmation. Vous parliez de quantité, restons sur les quantités. En quelle quantité faudrait-il ingérer des flavonoïdes pour en ressentir quelques effets bénéfiques ?
Eh bien, c'est une question difficile pour de multiples raisons, mais qui toutes tiennent à des connaissances insuffisantes. On sait aujourd'hui, à peu près admis, que dans l'alimentation habituelle, il y a environ 1 gramme ou 1,50 g de flavonoïdes. À l'opposé, quand on considère les études cliniques qui ont été faites, on rapporte des effets pour l'ingestion sous forme d'aliments ou de boissons de quantités de flavonoïdes qui peuvent varier de 20 à 60 mg. Donc il y a là une distorsion qu'il faudra expliquer. Évidemment, il y a des hypothèses possibles. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a plus de 300 flavonoïdes dans l'alimentation. Mesurer la quantité globale de flavonoïdes n'est pas suffisante. Il faut identifier les substances précises. Or, ces substances, généralement, on ne sait pas exactement lesquelles sont bénéfiques. Sans doute que les effets bénéfiques, s'il y en a, sont dus à l'association de nombreuses substances. Il y a donc une très grande difficulté à pratiquer ces études et à obtenir des résultats tout à fait convaincants. Mais enfin, les données récentes suggèrent que les quantités d'aliments ou de boissons qui sont utiles apporteraient quelque chose comme 50 ou 30 ou 50 mg de flavonoïdes par jour. Il faut bien être sensible au fait que la consommation doit être régulière et quotidienne. Eh bien, on va trouver ces quantités dans à peu près 6 ou 7 grammes de chocolat noir. Un chocolat noir avec 50% de cacao va fournir cette quantité dans un carré de chocolat sur une plaque de 16. Dans le vin, il faudrait environ 40-50 millilitres de vin, jusqu'à 100, disons, de vin, c'est-à-dire 1 à 2 verres à vin.
Vous êtes en train de déculpabiliser tous ceux qui mangent du chocolat tous les jours et qui prennent du vin.
Ah oui, mais attention, je vais les culpabiliser dans un instant. Dans le thé, bien c'est la même chose, il faudra environ 100 millilitres de thé. Le problème, c'est que quand on prend du vin, on prend aussi de l'alcool. Quand on prend du chocolat, on prend aussi des sucres, des graisses, qui ont un effet inverse, finalement, sur la santé. Il est donc extrêmement difficile de préconiser une utilisation de ces aliments ou de ces boissons à l'heure actuelle sans préciser exactement les quantités nécessaires, la limite auquel les effets adverses, les effets inverses, disons, les effets qui vont tendre à augmenter le poids, à produire des effets secondaires cardiovasculaires qui sont indésirables et d'autres, ne sont pas très strictement déterminés. Et s'il y a des indices intéressants, il faut dire qu'il faut encore faire beaucoup de recherches pour préciser ces données.
Nous avons parlé parmi les pathologies de problèmes cardiovasculaires où là il y a une corrélation qui peut être faite avec des effets positifs pour prévenir et peut-être aussi avoir des soins curatifs. Quelles sont les autres pathologies pour lesquelles les flavonoïdes auraient potentiellement des effets positifs ?
Je vais y venir, mais je voudrais souligner que c'est effectivement dans le domaine cardiovasculaire que le sujet est de loin le mieux documenté. Et il y a plusieurs raisons à cela, mais l'une en particulier, c'est que ces flavonoïdes, lorsqu'ils pénètrent dans l'organisme, rencontrent d'abord, depuis le sang, une cellule qui est la cellule endothéliale, qui est limite, qui borde le sang dans tous les tissus. Et cette cellule endothéliale règle le fonctionnement cardiovasculaire. Et c'est là que se situe sans doute l'effet principal des flavonoïdes. Les effets qui sont démontrés sont une légère diminution de pression artérielle, vraiment légère mais significative. Donc, vous savez, la pression artérielle est un facteur de risque. Elle est associée à un effet sur l'endothélium qu'on peut démontrer chez les patients, chez l'homme, à un effet qui porte sur la dominance de substances protectrices et la diminution de substances dangereuses émises par l'endothélium. Et cet effet a des caractères tout à fait intéressants parce que On peut l'observer non seulement chez des sujets sains, mais chez des sujets qui ont déjà fait, par exemple, un infarctus du myocarde. Et on peut le voir aussi chez des sujets dont la fonction de l'endothélium est détériorée par le tabagisme. Donc, si nous avons confirmation des effets bénéfiques, on pourrait avoir là un moyen de prévention non seulement primaire, mais secondaire des maladies cardiovasculaires. Et en plus, les effets s'étendent à l'hyperglycémie postprandiale, qui est un signe, lorsqu'elle est trop prolongée, de, disons, prédiabète. Et ils s'étendent au syndrome métabolique, à la surcharge pondérale, au diabète de type 2. Et donc, vraiment, il y a là un domaine tout à fait majeur dans lequel les flavonoïdes, si, encore une fois, la recherche confirme les hypothèses en cours, pourraient être très utiles. Il y en a d'autres, comme vous l'avez dit. On peut citer des maladies qui sont généralement des maladies associées à une forte composante inflammatoire, parce que les flavonoïdes ont la propriété d'induire l'expression des gènes anti-inflammatoires, antioxydants et anti-inflammatoires. Dans ces maladies, il y a l'asthme qui suscite beaucoup d'intérêt, la bronchite chronique obstructive.
Causée par le tabac ?
C'est lié au tabac, bien entendu, oui. Mais bon, là, je parlais à l'instant des effets vasculaires du tabac, mais également la bronchite chronique obstructive. Il y a les maladies neurodégénératives, parmi lesquelles la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. C'est presque trop beau. Mais dans ce cas-là, les évidences sont moins avancées que dans le domaine cardiovasculaire, tout en suscitant des recherches en ce moment très actives. On a suspecté aussi des effets dans certains cancers, mais là, il y a des rapports tout à fait contradictoires et il faut être très prudent encore dans ce domaine. L'idée vient du fait que les flavonoïdes, dans certaines conditions, ont sur les cellules un effet antiprolifératif.
De la même manière qu'il existerait des effets positifs, existerait-il des effets secondaires néfastes ?
On ne peut pas l'exclure, il y a des indices que c'est possible, on n'en a pas de réellement bien caractérisé. On sait que suivant les conditions où se passe la réaction, les flavonoïdes peuvent s'oxyder et en s'oxydant produire des espèces réactives de l'oxygène, exactement l'inverse de l'effet antioxydant. Et associé à cela, sur des cellules en culture au moins, on a observé des effets cytotoxiques. Donc on ne peut pas exclure qu'à certaines doses ou dans certaines conditions, les flavonoïdes puissent produire des effets toxiques. Encore une fois, il importe de les rechercher pour les connaître et c'est un sujet actuellement ouvert à la recherche.
Est-ce qu'il existerait des interactions avec d'autres produits ? Est-ce que les flavonoïdes, par exemple, en s'ajoutant avec un autre traitement, auraient des effets aussi, pour le coup, pas forcément positifs ?
Les flavonoïdes sont des substances très astringentes. Ça a l'air d'être un coq à l'âne, mais vous allez voir que non. Parce que parmi elles, il y a des tanins. Et ces tanins ont la propriété d'interagir avec de très nombreuses protéines. Ce faisant, ils peuvent modifier leur fonction. En fait, on n'a pas détecté d'effet à des concentrations suffisamment basses sur les protéines majeures pour que cela, actuellement, joue un rôle sans doute important. Mais néanmoins, au moment de la répartition dans l'organisme, au moment du passage dans le sang, au moment où les flavonoïdes sont dans les tissus et où peuvent y être stockés liés à des protéines, il y a toutes sortes d'interactions possibles mais qu'on ne connaît pas.
Venons-en aux études. Quelles sont les études en cours ? J'imagine qu'elles sont nombreuses.
Elles sont très nombreuses. Il y a actuellement plusieurs centaines de publications scientifiques sur les effets des flavonoïdes sur la santé et leurs effets biologiques chaque année. Et je pense, j'espère, que ce nombre va augmenter dans l'avenir. Les études portent d'une part sur les mécanismes. Quand on étudie les mécanismes d'action, on peut prendre des substances définies, ce qui est un grand avantage. L'inconvénient, c'est qu'aucune de ces substances définies ne rend compte des effets des flavonoïdes fournis par l'alimentation, qui sont probablement des effets complexes portés par un grand nombre de substances. Au moins, on a l'avantage de savoir exactement, de pouvoir élucider des mécanismes moléculaires. Et on s'intéresse beaucoup aux effets des flavonoïdes à ce niveau sur les systèmes de transmission d'informations dans les cellules par une cascade de phosphorylation. On s'intéresse également à leurs effets sur certaines catégories, certaines sous-classes de récepteurs aux estrogènes, dont certains expliqueraient une partie peut-être. Il s'agit là encore d'hypothèses, de certains effets cardiovasculaires au moins. Donc, on s'intéresse d'une part aux mécanismes d'action. Et puis, il y a des études cliniques qui se font sur une base meilleure, que par le passé, c'est-à-dire en essayant de beaucoup mieux connaître la composition des aliments qu'on administre. On sait souvent que la composition des aliments administrés dans les études épidémiologiques en particulier était connue très approximativement à travers un interrogatoire. On dispose maintenant de bases de données qui permettent de préciser les choses et de revenir en arrière. De même, on peut préciser les études interventionnelles cliniques, les essais randomisés, en connaissant beaucoup mieux les substances qu'on administre. Et dans tous les domaines dont on a parlé tout à l'heure, il y a des essais cliniques en cours pour essayer de préciser les effets potentiels, pour l'instant, des flavonoïdes dans diverses pathologies inflammatoires. On reprend les études également concernant le système cardiovasculaire, concernant aussi certains cancers et surtout, bien sûr, les maladies neurodégénératives. Dans tous ces domaines, il y a des recherches en ce moment à tous les niveaux, c'est-à-dire du mécanisme d'action aux études cliniques.
Aujourd'hui, ce que l'on peut dire, c'est d'avoir une alimentation variée pour pouvoir rester en bonne santé ?
Oui, c'est une sagesse, évidemment. C'est là, le sujet déborde beaucoup les flavonoïdes, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses dans l'alimentation. Mais enfin, tant qu'on ne sait pas plus sur les flavonoïdes, nous n'en avons pas parlé, mais on ne sait presque rien sur les mécanismes d'absorption. Une faible partie est absorbée dans le tube digestif. Ils sont sans doute transportés sous une forme conjuguée jusque dans les tissus. On ne sait rien sur la durée de leur présence dans les tissus, sur leur accumulation éventuelle. Tant qu'on n'a pas précisé toutes ces choses-là, il est, je crois, préférable d'en rester à la sagesse populaire. On a expérimenté depuis très longtemps l'utilisation d'aliments riches en flavonoïdes que l'on connaît, qui sont pour le cacao, le thé, les produits de la vigne, le jus de raisin aussi bien que le vin, incidemment. Enfin, certains jus de raisin, pas tous. Et ce qui serait sage, c'est d'abord de déterminer leur contenu exact en flavonoïdes, voire d'informer le public éventuellement dans le futur par un étiquetage, et puis de poursuivre les recherches d'autre part. Mais en attendant ces recherches, les résultats de ces recherches, il est sans doute prématuré de préconiser des adjuvants alimentaires ou des renforts de toutes sortes ou de l'administration de diverses préparations qui n'ont pas de justification scientifique pour l'instant.
Je vous remercie Jean-Claude Stockley. Je redonne votre titre. Vous êtes membre de l'Académie nationale de pharmacie, professeur honoraire de pharmacologie à la faculté de pharmacie de Strasbourg et vous avez dirigé un laboratoire de pharmacologie et de physiologie cellulaire, la raison pour laquelle vous êtes beaucoup intéressé notamment aux flavonoïdes. Merci et puis je l'espère à bientôt.
Merci à vous et à votre disposition bien sûr.
Au revoir.